Bien, je vous remercie. Bonsoir à tous. Je vous remercie très sincèrement d'être venus m'écouter ce soir. Et j'espère que nous allons tous ensemble passer une bonne soirée. Je vais d'ailleurs vous faire travailler un petit peu au cours de cette conférence. Donc ce soir, je vais vous parler de l'exposition Hokusai, mais surtout vous parler également de Hokusai et de l'origine des mangas. Je me permets de vous poser tout d'abord une question. Quelles sont les personnes qui parmi vous n'ont pas encore vu l'exposition ? Ah oui, voilà, très bien. Mais écoutez, je vous remercie infiniment. Donc, je remercie tout d'abord Madame Grassi de m'avoir donc proposé de faire cette conférence ce soir parmi vous. Je lui en suis très, très reconnaissante, ainsi qu'à Madame Dallon, qui est le commissaire de cette exposition. Donc, c'est une magnifique exposition qui va vous permettre, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, de découvrir vraiment qui est Hokusai. Donc, Hokusai, je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est avant tout l'artiste de la grande vague. Donc, cette grande vague, elle est déclinée, je dirais, aussi bien en Occident qu'au Japon, qu'en Asie, sous toutes ses formes. Vous la retrouvez sous forme de t-shirt, vous la retrouvez vraiment, je dirais, sous toutes ses formes, sur des vitrines de magasins, de restaurants, parfois dans les magazines pour parler de la crise économique ou même du tsunami également. Donc, mais Hokusai, ça n'est pas que la grande vague. Hokusai, c'est un artiste au génie multiple qui a fait également de très très nombreuses peintures et également toutes sortes d'estampes dont je vais également vous parler ce soir. Donc, avant de parler de Hokusai, je vais très très brièvement vous parler de l'évolution de l'art japonais jusqu'à l'époque de Hokusai. Donc, avant d'en arriver aux estampes japonaises, bien avant cela, au Japon, nous avons, venant d'Asie, venant de Chine, les rouleaux que l'on appelle en japonais emaki. Donc, ces rouleaux, au début, donc, servaient pour plutôt à des fins religieuses, puis nous avons eu des rouleaux de toutes sortes. Donc, avant cela, même avant les rouleaux, nous avons sur les murs de certains temples des caricatures qui sont considérées comme les prémices de l'animation et des mangas. Donc, celle-ci date du IXe siècle et elle se trouvait sous les lattes du plafond du temple de Horyuji. Donc, première caricature. De là, nous arrivons donc aux rouleaux enluminés. Ces rouleaux qui sont des rouleaux extrêmement précieux et qui étaient réservés, vu le prix qu'ils coûtaient, bien sûr, à l'aristocratie ou donc aux religieux, destinés donc en particulier au temple. Et vous avez celui-ci qui est probablement l'un des plus connus du Japon, qui est le rouleau des personnages, des oiseaux et des animaux, rouleau du XIIe siècle. Et là, vous pouvez constater que nous sommes presque arrivé donc aux illustrations de Disney. Quand vous remarquez donc cette grenouille, regardez bien donc de son, je dirais donc de sa bouche sort une sorte de phylactère, de bulle que l'on retrouve dans les mangas. Donc ces phylactères, on estime qu'on les trouve déjà au XIIe siècle dans les rouleaux. Le lapin est quant à lui vraiment tout à fait amusant, très dynamique. Et quand on pense que ceci est du XIIe siècle, vous voyez que je dirais que l'origine des mangas et de l'animation remonte bien à cette date. Donc maintenant, après les rouleaux, il y a eu toutes sortes de peintures, de kakemono, mais également destinées donc à l'aristocratie, etc., donc aux personnes qui avaient les moyens de s'en offrir. Et il fallut attendre l'époque d'Edo, c'est-à-dire 1603-1868, pour que, je dirais, l'art se démocratise. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à cette époque, les estampes japonaises vont faire leur apparition et vont être vendues vraiment très très bon marché et que tous les gens vont pouvoir alors en profiter. Donc ces estampes japonaises, je vais vous en parler en détail. Contrairement à ce que l'on a souvent pensé en Occident, elles n'étaient pas du tout considérées comme du grand art, mais elles étaient utilisées donc à des fins pédagogiques. C'était l'équivalent des médias que nous avons de nos jours, n'est-ce pas ? Elles remplaçaient les journaux ou les magazines. Nous allons en parler tout à l'heure en détail. Et elles étaient aussi utilisées à des fins ludiques, ce que nous allons voir également avec Hokusai. Donc pour les personnes qui n'ont pas encore vu cette exposition, je me permets juste de vous dire que donc, je l'ai visitée hier puisque j'arrive du Japon, je n'ai pas eu l'occasion de la découvrir avant. Et à ma grande surprise et vraiment... J'avoue que j'étais absolument enchantée. Non seulement c'est une exposition extrêmement riche au niveau des peintures, il y a beaucoup d'œuvres assez rares et il y a également des surimono. Alors ce que l'on appelle les surimono, ce sont des estampes, mais qui n'étaient pas destinées à la vente. Elles étaient commandées pour des occasions particulières, par exemple pour le Nouvel An, pour un déménagement, pour un changement de travail. Et donc il s'agissait de commandes particulières. Ces estampes étaient créées sur des papiers extrêmement épais, des papiers de très très grande qualité, avec des pigments également très luxueux, comme de la poudre d'or et d'argent. Et hier, j'ai été très heureuse de constater que parmi tous les surimono, vous en avez de magnifiques en haut, dans la salle du haut, juste derrière la grande vague. Vous regarderez lorsque vous serez juste face à la grande vague, derrière vous, dans la vitrine de droite, vous avez des surimono qui sont mis à plat dans une vitrine. Or, pour admirer des surimono, il ne faut pas oublier qu'à l'époque d'Edo, les estampes se tenaient entre les mains et donc qu'on pouvait en admirer, vous voyez, les gaufrages ou bien, par exemple, l'éclat de la poudre d'or et d'argent. Mais de nos jours, elles sont sous des vitrines ou bien dans des cadres accrochées au mur des musées et il est pratiquement impossible, si on ne le devine pas, d'admirer justement ces poudres d'or et d'argent. Donc si vous avez l'occasion de revoir cette exposition ou de la découvrir, je me permets de vous conseiller simplement de vous mettre juste au-dessus de la vitrine et de vous approcher très très près et de regarder, d'incliner votre visage et là vous verrez que les surimono qui sont présentés dans l'exposition sont d'une qualité exceptionnelle. Vous allez voir les miroitements, je dirais, de l'or et de l'argent et ce sont vraiment des œuvres qu'il ne faut absolument pas manquer. Donc dans cette exposition, vous avez des surimono de ce genre et également toutes sortes de peintures. Il ne faut pas oublier que les peintres de l'estampe japonaise sont avant tout des artistes et des peintres. Donc, en dehors des peintures, ils avaient de très nombreuses commandes également pour les estampes que je vais maintenant vous présenter. Alors, l'estampe, comme les mangas, je dirais que c'est un travail d'équipe. Donc, vous avez à la base, l'équivalent d'un producteur de nos jours, c'est donc l'éditeur qui joue le rôle d'un producteur, c'est-à-dire qu'il choisit son peintre. Il choisit ses peintres en fonction des estampes qu'il veut faire représenter. Il dira, par exemple, tiens, puisque c'est un paysage, je vais demander à Hiroshige, ça, je vais le demander à Hokusai, les courtisanes, je vais les demander à Utamaro. C'est lui qui choisit son peintre en fonction du sujet qu'il a décidé de traiter. Ensuite, le peintre donc exécute son dessin à l'encre de Chine, donc sur du papier, bien sûr sur du papier japonais, et le transmet à son éditeur qui, lui, va le transmettre de nouveau au graveur. Le graveur va ensuite le transmettre à l'imprimeur et ensuite l'estampe sera mise en vente. Donc, vous avez ici, la petite table avec tous les outils du graveur. Hein. Donc, il s'agit d'une gravure en relief, extrêmement minutieuse. Et donc, depuis l'époque Meiji, on a l'habitude de mettre un flacon rempli d'eau juste derrière, devant une lampe, afin que la clarté, la luminosité soit tout à fait harmonieuse et permette de graver des traits qui sont inférieurs à 1 mm. Donc pour la chevelure d'une courtisane, par exemple, c'est inférieur à 1 mm. C'est un travail extrêmement minutieux et on dit qu'il faut environ 10 ans pour être un bon graveur ou un bon imprimeur. Donc cette gravure en relief va ensuite être gravée une fois complètement, c'est-à-dire que l'image sera intégralement gravée. On va vérifier si l'image est de bonne qualité lorsqu'elle est imprimée à l'encre de Chine. Puis on va graver autant de planches qu'il y aura de couleurs. Alors comment sont décidées les couleurs? En général, c'est le peintre qui les décide, mais très souvent, c'est l'éditeur avec le peintre ou avec l'imprimeur. Donc vous avez ici la petite table de l'imprimeur sur laquelle vous voyez les brosses. Et à droite, ce petit objet rond, qui est le tampon que l'on appelle en japonais baren, vous voyez, qui est fait par l'imprimeur lui-même. Donc c'est vraiment très complexe. Et si vous souhaitez en savoir plus, vous aurez les explications à l'intérieur donc de l'exposition en regardant la vidéo et également dans mon ouvrage. Donc là, vous voyez l'imprimeur au travail. Il travaille sur une petite table en bois qui est inclinée, tout simplement pour lui permettre de mettre plus de force et de, disons, d'appuyer vraiment sur le, avec son tampon sur la partie à imprimer. Donc il est assis, vous voyez, en tailleur. C'est un travail vraiment très très difficile. Et selon les imprimeurs, le résultat de l'estampe sera complètement différent. Vous verrez donc en visitant cette exposition que pour la même estampe, si l'estampe a été imprimée à une époque différente ou par un imprimeur différent, vous aurez toujours des nuances différentes. Donc, après avoir gravé donc cette estampe en relief, on applique donc couleur par couleur, on utilise les planche par planche, couleur par couleur, jusqu'au résultat final. Là, je ne vous montre qu'une partie, bien sûr, du travail de l'imprimeur, mais donc planche par planche, il faut en général 10 planches ou 12 planches au minimum pour une estampe. Là, vous voyez ici un atelier donc de l'époque d'Edo, qui représente donc des jeunes femmes au travail. Donc elles gravent. Vous voyez ici donc une personne qui grave les estampes. Celle-ci est en train d'humidifier le papier. Le papier doit toujours être humidifié pour que les pigments donc puissent adhérer harmonieusement donc à ce papier. Et je dois quand même vous expliquer que ces jeunes femmes au travail sont ravissantes, mais que ce travail était le travail des hommes. Tout simplement parce que c'est un travail qui exige beaucoup de force physique et que de nos jours, si quelques femmes s'y risquent, très peu continuent ce métier qui demande justement beaucoup de force physique. Il en reste quelques-unes, mais en général, au bout de quelques années, elles souffrent de douleurs au niveau des épaules et des bras ou des reins également et ont du mal à continuer longtemps ce travail. Donc vous voyez ici un magasin que l'on appelle Ezoshiya dans lequel étaient vendues les estampes. Alors vous voyez que ces estampes sont accrochées les unes au-dessus des autres et que pour ne pas les abîmer, on utilise des petites pinces, voilà, des petites pinces qui sont très très légère et qui n'abîme pas le dessin. Vous voyez ici donc une cliente et vous pouvez constater également que dans ces magasins, on vendait des livres imprimés que vous retrouverez également dans cette exposition. Donc, je suppose que parmi vous, certaines personnes ont la chance de posséder des estampes japonaises. Je suppose que vous ne les découpez pas et je suppose que vous ne les donnez pas à votre bébé à emporter lorsque vous les achetez dans un magasin. Cependant, vous remarquerez qu'ici, la maman a confié l'estampe qu'elle venait d'acheter à son bébé. Donc, cela vous prouve que les estampes n'étaient pas du tout du grand art, mais que c'était quelque chose de très populaire et qu'elles ne coûtaient pas cher du tout, donc que les gens pouvaient s'en procurer, tout comme on dirait aujourd'hui acheter un journal ou une revue. Maintenant, nous allons parler de nouveau donc de Hokusai et de la perspective. Donc, vous constaterez dans cette exposition qu'il y a beaucoup d'estampes donc en perspective, ce qui s'appelle ukiyo-e en japonais, perspective à l'occidentale, qui fut introduite au Japon au XVIIIe siècle par deux chemins, par celui de la Chine, Chine qui a donc, elle, connu la perspective grâce aux jésuites qui sont allés en Chine au XVIIIe siècle, et par le biais de la Hollande, puisque les Hollandais, donc, ont pu importer au Japon de très nombreux livres, et de livres d'art en particulier, et des gravures, gravures qui ont joué un rôle très important au Japon à cette époque, puisqu'elles furent imitées par les grands peintres de l'ukiyo-e. Donc, à cette époque, par la Chine et par la Hollande, pénètrent aussi de très nombreux objets, par exemple des télescopes, toutes sortes d'objets également concernant l'astronomie, également des pendules occidentales. Et tous ces objets étant rares, deviennent des sujets pour les peintres de l'estampe japonaise. Donc voici de nouveau un paysage de Hokusai, toujours. Là, vous voyez un paysage de Hokusai avec les feux d'artifice. L'été, si certains d'entre vous se sont déjà rendus au Japon, vous pouvez assister à de très nombreux feux d'artifice magnifiques, vraiment tous plus magnifiques les uns que les autres à travers l'archipel. Et vous constaterez que ces feux d'artifice sont rouges, tout simplement parce qu'à l'époque d'Edo, on ne connaissait pas d'autres moyens pour les feux d'artifice que cette couleur rouge. On n'avait pas trouvé encore la solution pour rendre les fusées des feux d'artifice multicolores. Donc vous voyez de très nombreuses personnes massées sur ces ponts. Oh, pardon. Donc ici, de nouveau, des estampes qui utilisent la perspective occidentale et vous remarquerez qu'elles sont présentées dans des cadres. Ce sont des faux cadres. C'est simplement que Hokusai a voulu imiter les Occidentaux et qu'il a donc mis autour de ces estampes des faux cadres avec des craquelures, n'est-ce pas ? Donc ceci, c'est imprimé, bien sûr. Et ici, pour imiter donc les Occidentaux, la signature des Occidentaux, il a mis son texte japonais qui se lit de haut en bas. Il faudrait retourner l'estampe pour pouvoir le lire, afin d'imiter simplement la signature des Occidentaux. Donc ça, c'est vraiment, vous voyez, de l'exotisme pur. Vous admirerez également les gaufrages sur cette estampe qui sont tout à fait remarquables. Donc ceci, c'est l'ancêtre de la grande vague que vous connaissez tous. Donc cette vague, elle a été créée par Hokusai 30 ans avant la grande vague que vous connaissez. Donc vous voyez la différence au niveau de la forme. Vous constatez également que le mont Fuji ne figure pas dans cette estampe, alors qu'il figure bien sûr dans l'estampe qui fut créée 30 ans plus tard. Donc cette estampe est très importante parce qu'elle vous permettra de comprendre l'évolution du peintre entre cette époque-là et la fin de sa carrière. Donc celle-ci est également très connue, c'est une estampe donc, qui utilise de nouveau la perspective occidentale avec, comme je vous le disais, ce cadre, donc, qui est c'est simplement imprimé, n'est-ce pas ? Ça représente un cadre, et puis la signature, enfin ce qui représente la signature à l'occidentale, mais qui n'est pas en fait une signature, qui est un titre, et puis les ombres portées. Alors on a toujours dit dans de très très nombreux écrits que les Japonais ne connaissaient absolument pas la perspective, qu'ils ne connaissaient pas les ombres portées, mais c'est complètement faux, c'est simplement parce qu'ils n'avaient pas besoin de l'utiliser, ils l'utilisaient quand ils le souhaitaient uniquement, et simplement parce qu'à cette époque-là, Hokusai et d'autres peintres se sont amusés à faire comme les Occidentaux, à reproduire les ombres. Donc je dirais que c'est presque un amusement, c'est une inspiration. Vous voyez ces estampes, c'est, je dirais, les gravures occidentales qu'ils ont pu voir ou bien les reproductions qu'ils ont pu voir dans des livres leur ont apporté beaucoup. C'était pour eux quelque chose, je dirais, un plus dans leur façon de créer de nouvelles choses. Vous verrez également dans cette exposition des jeux. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'estampe a un but à la fois pédagogique, médiatique, ludique, et le jeu occupe une grande partie, je dirais, à l'époque d'Edo. Donc, à l'époque d'Edo, je reviens un tout petit peu sur l'histoire du Japon, c'est vraiment l'époque où la classe marchande s'est enrichie, c'est l'époque où cette classe marchande a eu envie de profiter, elle aussi, de la vie, de profiter des théâtres, de profiter des maisons de thé, etc. Donc, c'est là que le kabuki va se développer, atteindre son apogée. C'est là que les gens vont aller admirer des animaux qui viennent de pays lointains, qu'ils vont aller visiter des foires, etc. C'est là qu'ils vont aller aussi voir des spectacles de marionnettes. Et en ce qui concerne les jeux, il y eut aussi beaucoup de jeux créés par les peintres de l'estampe japonaise. Donc, vous voyez également de très nombreuses estampes représentant les enfants. Donc, dans les estampes, je dirais, destinées aux enfants, il y a des estampes représentant les enfants. Par exemple, ici, des jeux ou la fête des enfants, par exemple, à droite, avec cette grosse carpe, symbole de la virilité et de la force, n'est-ce pas ? Vous voyez des petits enfants donc, qui célèbrent la fête des garçons, donc le 5 mai. Et puis, vous avez de très nombreuses donc, estampes qui sont destinées à être découpées. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez acheté des estampes, je pense que vous ne les avez pas découpées. Pourtant, nombreuses étaient les estampes qui étaient destinées à être découpées. Donc, il existait par exemple des poupées à découper, à habiller, à changer de kimono. Il existait également de très nombreuses maquettes, donc, dont celle-ci que vous pouvez admirer dans l'exposition. Pour une maquette, il faut parfois découper 10, 12, 15 planches. Donc, celle-ci est un petit peu moins compliquée puisque je crois qu'il n'en faut que 5 ou 6. Mais le travail est quand même assez difficile et je crois que les enfants devaient se faire aider par leurs parents ou par des amis parce que c'est vraiment parfois très petit à découper et très difficile quand même, je pense, à coller et à utiliser. Mais vous voyez ici le résultat. Et vous, en regardant cette maquette, je pense que vous comprendrez que Hokusai est à la fois un grand artiste, mais que c'est un artiste vraiment éclectique, qui sait tout faire, qui s'intéresse à tout, qui s'intéresse à l'art de la Chine, à l'art de l'Occident, à l'art de son pays, et qui touche, je dirais, à tous les domaines. Que ce soit sur le plan de la peinture, de l'estampe, il va aussi bien créer des paysages que des jeux pour enfants. Donc voici en gros plan, voyez donc une partie de cette maquette qui, une fois découpée, vraiment sera quelque chose de tout à fait joli, n'est-ce pas, que l'on peut mettre dans sa maison, que l'on peut décorer. Vous avez également de très nombreux jeux de cartes. Alors toutes ces maquettes, tous ces jeux de cartes, on les collait sur du papier plus épais, de façon à pouvoir jouer avec. Donc là, c'est un jeu de cartes. Vous avez des jeux de cartes avec des poèmes, des jeux d'association d'idées. Donc par exemple comme ceci, vous voyez, donc l'un des joueurs pose une carte sur la table, l'autre doit trouver la suite du poème par exemple, ou le poème qui est associé à la première carte. Donc ce sont des jeux donc très, je dirais, très très bien faits, qui développent l'intelligence de l'enfant. En même temps, ils sont très beaux puisqu'il s'agit là d'estampes polychromes. Donc estampes polychromes qui furent créées pour la première fois en 1765 par Suzuki Harunobu. Donc avant ces estampes polychromes, xylographiques polychromes, il existait des estampes tout d'abord en noir et blanc, puis des estampes rehaussées de différentes couleurs. Mais les premières estampes donc polychromes, xylographiques polychromes, datent de 1765, à la suite desquelles, donc jusqu'à l'époque Meiji, vous avez toutes sortes d'estampes sur toutes sortes de sujets, toutes plus belles les unes que les autres. Donc Hokusai a aussi donc beaucoup aimé ces estampes que l'on appelle mojie en japonais, estampes qui présentent donc ici une poétesse très très connue, n'est-ce pas? Et donc cette poétesse, eh bien son nom est caché, dissimulé à l'intérieur de ce kimono. Donc bien sûr, là, je ne m'attarderai pas parce qu'il faut lire le japonais, mais vous verrez dans l'exposition qu'il a représenté plusieurs poètes. Il s'agit de la série des 6 poètes. Seule une femme figure parmi ces 6 poètes, et chacun a son nom dissimulé dans le kimono ou dans une partie de son vêtement. Donc, de nouveau, un jeu de cartes avec des poèmes. Maintenant, je vais vous parler de l'expression du mouvement qui est très importante, surtout en ce qui concerne la partie des mangas et de l'animation. Donc, dans cette exposition, vous allez constater que c'est une grande chance pour nous de découvrir la manga de Hokusai. Donc, cette manga de Hokusai comporte 15 carnets, 2 furent publiés après sa mort, mais il ne s'agit pas du tout de manga au sens où nous l'entendons actuellement. Je n'ai pas dit le manga de Hokusai, mais la manga. Je ne sais pas du tout pour quelle raison, mais au XIXe siècle, lorsque le japonisme fut donc très à la mode, donc ce mot fut utilisé au féminin. De nos jours, il est utilisé au masculin, donc dans le sens de manga, de bande dessinée, mais à l'époque de Hokusai, le mot manga ne signifiait pas bande dessinée, mais il s'agissait de carnets de dessin qui étaient destinés à apprendre le dessin à ses disciples ou à tous les gens qui souhaitaient dessiner. Donc vous verrez que ces carnets sont très bien exposés là dans cette exposition et vous permettent de découvrir comment vivait cette société à l'époque d'Edo. Hokusai, je le disais tout à l'heure, est un génie multiple qui sait tout dessiner, aussi bien les oiseaux, les animaux, que les poissons, que les êtres humains, dans toutes les positions possibles et imaginables, en train de danser, en train de faire de l'acrobatie, en train de se reposer, de prendre un bain, etc. Donc ceci, c'est un extrait donc, de la manga de Hokusai, qui connut un succès fulgurant donc, à l'époque où Hokusai vivait et qui a été réédité donc, à de très très nombreuses reprises. Donc là, vous voyez par exemple que dans sa manga, il explique à ses disciples, à tous ceux qui veulent apprendre à dessiner, comment donc dessiner un dessin en utilisant la perspective à l'occidentale. Donc là, il vous représente différents animaux, animaux rares pour l'époque. Et puis cet animal, d'après vous, qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est une sirène. Donc j'avoue que quand on imagine la petite sirène de Disney, c'est quand même assez différent, mais je la trouve très sympathique. Il s'agit d'une sirène. Donc là, vous avez toutes sortes de choses, donc des paysages, des bâtiments, des gens en train de nager sous l'eau avec une bouée, etc. Là, différents personnages qui vaquent à leurs occupations. Maintenant, je vous demande de bien regarder ceci. Il s'agit de la danse du moineau et je vous proposerai tout à l'heure, à la fin de cette conférence, quelque chose de très amusant. Donc, cette danse du moineau, elle a beaucoup inspiré, comme tous les dessins de Hokusai, comme ses peintures, et comme également beaucoup d'autres, je dirais, œuvres d'artistes de l'ukiyo-e de cette époque. Elle a inspiré de nombreux peintres à l'époque du japonisme, des peintres comme Monet, Manet, Degas. Et nous avons aujourd'hui parmi nous la chance d'avoir Madame Lacambre, qui fut donc le commissaire de l'exposition donc de 1988 consacrée au japonisme, exposition magnifique que j'ai découverte ici au Grand Palais et qui était une exposition qui a vraiment expliqué le japonisme sous toutes ses formes, qui était magnifique. Donc tous les peintres donc, de cette époque se sont inspirés de Hokusai, mais aussi d'autres peintres japonais. Et vous verrez au début de cette exposition que le japonisme est bien représenté dans la première salle. Donc ces petits personnages qui dansent la danse, là, c'est cette danse du moineau, vous les retrouvez dans la position des danseuses de Hokusai, de Degas. Alors, Hokusai a fait des danseuses, mais elles sont très différentes, excusez-moi. Voilà, donc vous retrouvez ces petits personnages qui dansent en perspective, cette fois sur un kakemono. Maintenant, vous retrouvez les petits personnages sous l'eau, en gros plan, ou avec une bouée. Là, les personnages qui apprennent à combattre. Là, donc différentes choses, en particulier des armes, etc. Et puis, je vous demande de bien regarder cet ensemble parce qu'après, je vais vous poser une question. Donc, vous avez aussi ici donc, le fantastique qui est très bien représenté également dans cette exposition. Le fantastique qui occupe une place, je dirais, très, très importante, aussi bien dans la littérature que dans l'art du Japon. Donc, vous avez ici les longs coups, n'est-ce pas ? Les longs coups. Qui peuvent s'allonger autant qu'ils le désirent. Alors très souvent, ces longs coups sont redoutables, surtout lorsqu'il s'agit d'une femme. Elle est très souvent à la recherche de son mari qui est en train de la tromper. Donc ça peut être très très dangereux. Voilà, il représente également donc, la faune, la flore, toutes sortes de choses. Des personnages, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui font des acrobaties. Et puis aussi des personnages qui sont en train de lutter, ce sont des lutteurs de sumo. Donc le sumo qui est toujours un sport très très apprécié au Japon. Donc je vous montre ces deux-là en gros plan, afin de vous montrer que Gauguin, ce fut également très bien expliqué dans l'exposition du japonisme en 88 et repris à de nombreuses ensuite de nombreuses fois à la suite de cette exposition, Gauguin qui s'en inspira pour cette œuvre. Voilà, nous retrouvons maintenant les petits personnages grimaçants. Je vous demande de bien les regarder. Nous retrouvons les monstres en bas à gauche. Les voici de nouveau en gros plan. Et maintenant, je vous fais travailler. Donc, ce dessin, c'est un dessin d'un peintre contemporain. C'est une œuvre de 1988 de Maekawa Shinsuke. Et regardez bien, j'ai trouvé que c'était une œuvre formidable parce qu'elle représente à elle seule toute l'histoire du Japon, toute l'histoire de l'art japonais, de ses origines jusqu'à l'animation japonaise. Donc je vous demande de retrouver quelques personnages que je vous ai montrés. Est-ce que certains d'entre vous peuvent m'en indiquer ? D'après vous, où sont-ils ? En haut, à quel endroit ? Oui. Voilà, très bien. Donc, en haut à droite, vous voyez ici la grenouille et le lapin. Ici, qu'est-ce que vous voyez ici ? La caricature qui a été reprise dans un manga contemporain. Et où se trouve Hokusai ? Voilà, absolument, merci beaucoup. Voilà, vous retrouvez les personnages de Hokusai ici et également ici. Mais cela, je ne sais pas si je vous les ai montrés. Mais voyez, il vous les a mis dans une petite maison. Donc c'est une œuvre tout à fait exceptionnelle que l'on a rarement l'habitude, malheureusement, de pouvoir admirer. Et là, je vous montre en gros plan le rouleau de tout à l'heure, l'extrait du rouleau et la caricature. Voilà, donc vous voyez que c'est très amusant de voir que les peintres contemporains, aussi bien les mangaka, qui ont beaucoup de succès actuellement, que les maîtres de l'animation japonaise, reconnaissent tous avoir été, un jour ou l'autre, influencés par les grands peintres japonais et en particulier par Hokusai. Maintenant, nous allons parler du surnaturel, comme je vous l'ai dit, très bien représenté dans cette exposition. Vous allez pouvoir voir ceci, qui est malheureusement le spectre d'une femme trompée par son mari, empoisonnée par la maîtresse de celle-ci, et qui, voulant se venger, s'est malheureusement blessée et en est morte. Donc elle revient sous forme de spectre et hante chaque nuit son mari et sa maîtresse. C'est une vengeance terriblement cruelle, mais une vengeance très efficace. Voilà, donc celui-ci, eh bien, c'est également, je dirais, presque la même chose, puisque lui a été trahi par sa femme. Et là, il est en train de se venger et de pénétrer dans la chambre de son ex-épouse et de son amant. Et regardez, il est en train de soulever la moustiquaire. Que va-t-il se passer après ? Hokusai ne nous l'a pas appris. Voilà, là vous avez une ogresse, image terrible, qui tient dans sa main la tête d'un bébé. Et ceci, c'est une histoire très célèbre, Sarayashiki, donc l'histoire d'une jeune femme qui, après avoir cassé une assiette, donc a malheureusement péri au fond du puits à cause du maître qui l'employait. Et chaque nuit, elle revient regarder son long cou. Son long cou est composé entièrement d'assiettes. Elle revient en chantant donc cette assiette qu'elle a cassée et elle revient hanter les nuits du maître qui l'a poussée au fond de ce puits. Donc ces 100 contes, qu'on appelle Hyaku Monogatari en japonais, ces 100 contes sont à l'origine donc des contes oraux, n'est-ce pas, qui se sont transmis de génération en génération. Et ce sont des contes et des histoires que l'on aimait se raconter à l'époque d'Edo. Donc les gens se réunissaient dans une salle, on réunissait 100 personnes, chacune ayant une bougie allumée à la main. Et puis chaque personne devait raconter une histoire de fantôme, de spectre, une histoire aussi terrifiante que possible, et éteindre sa bougie à la fin de l'histoire. Lorsqu'arrivait la 100e personne, la salle se retrouvait dans la pénombre, et là, on redoutait, ou plutôt on espérait, voir surgir un yokai, un fantôme ou un spectre. Donc cela n'arrivait que très rarement, je suppose, mais peut-être que cela arrivait. Voilà, donc vous voyez l'un des longs coups que je vous ai présenté tout à l'heure, donc cette estampe qui fait partie donc d'un livre illustré et vraiment très très célèbre de nos jours. De nouveau les monstres. Et maintenant, nous allons aborder la caricature qui fait partie également des prémices des mangas et de l'animation. Donc dans cette exposition, nous avons la grande chance de voir ce que l'on appelle des tobae, c'est-à-dire des caricatures. Caricatures qui influencèrent beaucoup à la fois les étrangers qui se trouvaient au Japon à cette époque, en particulier le français Bigot, et également les Japonais de cette époque qui commencèrent à faire des caricatures et des mangas. Je vous prie de m'excuser. Donc ces caricatures sont fort belles et vous pourrez les admirer, elles sont très très amusantes. Mais Hokusai n'est pas le seul à en avoir fait. Hein. Les tobae sont des caricatures que l'on retrouve également chez d'autres peintres. Donc, caricature amusante qui représente des scènes de la vie quotidienne. Hokusai donc, fut également un maître, je dirais, donc, du dessin simplifié. Non seulement dans sa manga, mais également dans de nombreux manuels, il a absolument tout fait pour que les gens apprennent à dessiner simplement et à dessiner toutes sortes de choses. Donc, vous verrez dans l'exposition également de très nombreux carnets sur des sujets très différents. Donc celui-ci qui est également très très connu. Et puis également toutes sortes donc, de caricatures. Et maintenant, ce petit bonhomme qui vous apprend à danser. Donc vous voyez ici que le mouvement est très bien décomposé. Donc il avance progressivement en sautant. Et puis il arrive avec son éventail. Il tourne. Il fait tourner son éventail et la danse est terminée. Maintenant, Hokusai est, comme vous le savez, un maître du paysage. Mais il ne faut pas oublier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que c'est quelqu'un de très curieux, qui s'intéresse aussi bien à la Chine, à l'art de la Chine, qu'à l'art de l'Occident. Et vous pouvez constater, donc, dans l'estampe qui se trouve donc à votre gauche, ici, qu'il s'est aussi inspiré, très largement parfois, des estampes occidentales qui ont pénétré au Japon à cette époque. Pardon, des gravures, je voulais dire, des gravures occidentales. Donc ceci a été découvert par M. Oka, qui est un conservateur d'un musée japonais, qui a consacré de nombreux articles et ouvrages justement à l'influence des gravures occidentales sur l'art japonais. Donc M. Oka est conservateur au musée de Kobe. Donc vous pourrez également dans l'exposition admirer ces paysages. Je dirais que c'est très proche du pointillisme. Tellement, quand on regarde bien, vous voyez, il a su rendre le relief, le mouvement de la vague par des petits points, par des traits extrêmement fins, n'est-ce pas ? C'est vraiment très beau. Les couleurs sont très belles. Les estampes présentées ici sont extrêmement bien conservées. Et M. Nagata Seiji, qui est le commissaire donc japonais de cette exposition, a tout fait pour vous présenter des œuvres d'une très grande qualité. Vous verrez également des cascades, puisque les cascades sont l'un des thèmes favoris de Hokusai. Également beaucoup d'estampes représentant donc la mer, hein, l'océan. Et puis cette grande vague qui, comme je vous l'ai dit, 30 ans après celle que je vous ai montrée tout à l'heure, est l'un des chefs-d'œuvre de ce grand peintre. Donc là, vous voyez l'évolution donc, entre la première, pardon, c'était celle-ci, et celle-ci. La façon de représenter la vague a complètement changé. Vous voyez le ciel, la couleur du ciel est différente, la représentation des nuages figure, alors que dans l'autre, elle était complètement, je dirais, presque absente. Et puis le Fuji, qui est en plein milieu de cette estampe, qui permet à la vague de prendre toute son ampleur. Contrairement aux autres maîtres donc, du paysage, Hokusai, je dirais, a fait des paysages qui sont à eux seuls des œuvres d'art. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de savoir qu'il s'agit de tel ou tel paysage à chaque fois qu'il nous représente la montagne, le mont Fuji ou la grande vague. Je dirais que sans même lire le titre, le paysage suffit à lui-même. Maintenant, je vais vous parler donc de l'influence de Hokusai sur les mangas et sur les mangaka en particulier. Mizuki Shigeru, qui est le grand maître des monstres des yokai, Ishinomori Shotaro et Sugiura Hinako, et également les artistes contemporains. Lorsque l'on m'a demandé très gentiment de faire cette conférence, j'avoue que j'ai beaucoup hésité parce que j'ai tellement de choses à vous dire qu'une fois ne suffira pas. Et je me suis dit que plutôt que d'axer ma conférence uniquement sur l'influence des mangas, qu'il serait bien peut-être également de vous présenter des œuvres d'artistes japonais contemporains parce que ces œuvres sont encore très très peu connues ici. Donc nous retrouvons, n'est-ce pas, notre malheureuse jeune femme qui, comme vous le voyez, est interprété ici par Mizuki Shigeru, ce grand maître des monstres. Donc les œuvres de Mizuki Shigeru, qui était vraiment un grand mangaka âgé aujourd'hui d'environ 90 ans, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à de nombreuses reprises, qui est vraiment quelqu'un d'absolument adorable, eh bien ces œuvres sont quelques-unes de ses œuvres sont traduites en japonais. Il a également obtenu donc des prix en France. Et c'est un grand dessinateur. J'ai eu l'occasion et la chance de voir de nombreuses planches originales et vraiment, il a une façon de dessiner tout à fait remarquable. Donc, vous voyez qu'ici, au lieu de poursuivre donc la maîtresse et son ex-mari et sa maîtresse, ce monstre poursuit cette petite fille. Cela n'en est que plus effrayant, me semble-t-il. Vous voyez ici l'œuvre d'une jeune artiste de la Kaikai Kiki. Donc la Kaikai Kiki, c'est un ensemble de jeunes artistes contemporains qui ont été réunis par Murakami. Donc Murakami que vous avez peut-être découvert à Versailles, qui est maintenant mondialement connu. Donc elle réinterprète ici donc l'estampe de Hokusai en changeant complètement, je dirais, le décor puisque nous nous retrouvons dans un cimetière. Maintenant, voyons l'influence que la grande vague a pu exercer. Regardez bien cette œuvre. Donc cette œuvre est l'œuvre d'un artiste contemporain que j'ai également eu l'occasion de rencontrer, qui est absolument charmant, qui s'appelle Monsieur Ikeda Manabu. Ses œuvres sont en général... Il y a des œuvres de toute taille. Celle-ci est particulièrement de grande taille, pourrais-je dire. Et il travaille à la plume. C'est un travail vraiment d'une minutie très très grande. Et quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé qu'il s'agissait de la grande vague de Hokusai. Je pense que beaucoup d'entre vous partageront mon avis. Eh bien non, m'a-t-il dit, pas du tout. Il m'a dit, quand j'ai commencé cette œuvre, cela n'avait pas du tout la forme d'une vague. J'imaginais des choses en train donc de se dilater, de tomber, et qui ensuite allaient remonter sous une autre forme. Et là, je me suis aperçue, m'a-t-il dit, en dessinant, qu'il s'agissait d'une vague. Quand cette vague a été terminée, je me suis dit que l'œuvre était déséquilibrée puisque, au début, seule existait cette partie-là. Et il m'a dit, voilà, j'ai décidé d'ajouter un autre élément afin de rééquilibrer ce tableau et j'ai ajouté cette vague. Ce qui donne un paysage complètement, impossible puisque vous avez une vague dans les deux sens qui ne peut pas exister. Mais lorsqu'on le voit, je dirais que cela fait tout à fait penser à l'œuvre de Hokusai. Et je dirais que cette influence, à mon avis, est tout à fait inconsciente. Il en est lui-même, il me l'a dit, mais c'est vrai qu'après, je me suis dit moi-même qu'effectivement, j'avais dû être influencée sans m'en rendre compte par l'œuvre de cet artiste. Mais qu'en la faisant, au tout début, j'avais tout à fait imaginé autre chose. Donc vous voyez à quel point l'œuvre de Hokusai, je dirais, persiste dans les mémoires et est présente également chez les artistes contemporains. Donc là, vous avez de nouveau l'œuvre de cet artiste de la Kaikai Kiki, donc qui est signée, hein, comme vous le voyez en bas de l'image, Takano Aya, pardon, excusez-moi. Et voilà, qui réinterprète la grande vague de Hokusai. Vous voyez, sous une forme complètement différente, avec beaucoup d'humour. Et elle place d'ailleurs dans son dessin, vous le voyez ici, la grande vague et en même temps le Fuji. Donc je dirais que c'est un composé de ces deux œuvres. Ici, vous voyez de nouveau une interprétation d'un peintre également très très célèbre. Donc il s'agit de Nara Yoshitomo, un artiste contemporain donc très célèbre maintenant dans le monde entier, qui réinterprète la vague à sa façon et en fait une perruque. C'est très surprenant. Un autre artiste, là il s'agit d'un bois gravé, et si vous regardez bien, il inclut dans son œuvre des yeux. La vague est utilisée ici, sur deux niveaux, et également d'une façon différente en haut de son œuvre. Donc cette œuvre-là, c'est l'œuvre d'un artiste du verre qui s'appelle Monsieur Kuroki, artiste que j'ai également eu le plaisir de rencontrer, qui fait des œuvres absolument, je dirais, extraordinaires, typiquement japonaises, parfois dans le style d'Émile Gallet, et parfois dans le style vraiment tout à fait typiquement japonais et traditionnel, et qui a donc fait fabriquer ce paravent entièrement en verre à l'intérieur, qui représente la grande vague de Hokusai. Je vous prie de m'excuser. Cette œuvre figure donc dans l'exposition, presque à la sortie de l'exposition, vous pourrez l'admirer, elle est très célèbre. Et c'est une œuvre qui a été créée par Hokusai, qui a été peinte peu de temps avant son décès. Elle a été donc réinterprétée par Murakami, qui y incorpore, comme vous le voyez, ces petits personnages qui sont eux-mêmes dérivés des yokai et des rouleaux et maquis du XIIe siècle. Ici, vous retrouvez le Fuji, donc œuvre de nouveau de Nara Yoshitomo, et vous voyez, donc vous avez ici le titre Fuji Ski. Donc le Fuji sert à faire du ski. Ce n'est pas une œuvre d'art, il sert à faire du ski. Donc de nouveau, beaucoup d'humour chez cet artiste. Maintenant, regardez bien cette œuvre et vous allez voir que les peintres contemporains l'utilisent également fréquemment, en particulier cet artiste de Nihonga. Donc le Nihonga, c'est une technique traditionnelle. Nous avons ici parmi nous une artiste de Nihonga dans la salle. Et le Nihonga, donc c'est une technique traditionnelle qui utilise presque exclusivement des pigments minéraux et parfois métalliques. Donc c'est une technique vraiment tout à fait remarquable. Donc vous voyez ici l'influence, je dirais l'inspiration qu'en a tiré cet artiste. Maintenant, nous allons retourner aux cascades. Celle-ci est bien sûr extrêmement connue. C'est une œuvre remarquable de Hokusai qui a été réinterprétée par un artiste contemporain qui s'inspire à la fois de Musha, donc Musha qui se prononce Musha ou Mura hein, selon le pays, qui incorpore, je dirais, qui présente une femme dans le style de Musha à l'intérieur, je dirais, juste à côté de cette cascade de Hokusai. Les courtisanes sont présentes chez tous les peintres de l'ukiyo-e, chez Hokusai également, et vous verrez de très belles peintures de courtisanes dans l'exposition, en particulier au second étage. Ces peintures sont remarquables. Les courtisanes habitaient dans le quartier de plaisir Yoshiwara de la capitale Edo. On en trouvait également, bien sûr, à Kyoto et dans d'autres villes. Mais je dirais que le quartier de plaisir le plus célèbre et le plus représenté par les peintres, en particulier par Utamaro, était le Yoshiwara. Ces femmes avaient une vie, malgré leur apparence royale et les kimonos divins qu'elles portaient, je dirais qu'elles avaient une vie vraiment, bien sûr, extrêmement pénible et qu'elles mouraient très, très jeunes. Ces courtisanes donc, ont inspiré de nombreux peintres contemporains, dont celle-ci, Mihashi Mari, qui est une peintre contemporaine, qui s'est également inspiré des dessins et des peintures de Hokusai, en particulier de ce dragon. Maintenant, regardez bien de nouveau ce paysage donc, de Hokusai que vous retrouverez dans l'exposition. Paysage réinterprété par Murakami, qui, lui, a choisi de le représenter sous forme d'autoroute. Autoroute qui circule à travers ce paysage. Voilà, maintenant nous allons parler assez brièvement de l'influence de Hokusai sur les mangas et l'animation. Donc, dans les mangas, tous ceux qui parmi vous lisent des mangas savent qu'il y a donc des phylactères qui permettent aux personnages de s'exprimer, phylactères ou bulles, n'est-ce pas, qui sont très importantes donc dans les mangas. Ces phylactères, ils existent, comme je vous l'ai dit, je crois, tout à l'heure, dès les rouleaux emaki, puisqu'on retrouve tout à l'heure, je vous ai montré la grenouille et le lapin, n'est-ce pas ? Et l'un des deux personnages, pour exprimer sa pensée, n'est-ce pas, laissait échapper une sorte de phylactère donc de sa bouche. Et là, vous voyez que de nouveau, là, c'est un objet. C'est une, je dirais, l'expression d'un poème ou d'une pensée qui peut s'échapper donc d'un objet ou bien, en général, d'un personnage. Cela exprime très fréquemment le rêve. Donc là, vous retrouvez le phylactère, regardez ici, qui est représenté ici, donc les prémices du phylactère que nous retrouvons donc dans les estampes. Et je dirais que l'influence, à mon avis, primordiale que Hokusai a eu sur donc les peintres contemporains et en particulier les mangaka, c'est dans son expression du mouvement et de la vitesse. Donc vous remarquerez ici l'expression du vent, de la pluie, qui est fort bien représentée. Également de nouveau, vous voyez donc les branches se plier sous le vent, sous la pluie. Ligne de vitesse que l'on retrouve dans les mangas. Donc là, j'ai choisi un manga que vous ne connaissez peut-être pas. Je ne pense pas qu'il soit traduit en français ni en anglais. C'est un manga de Minamoto Taro, qui est un mangaka qui a fait de nombreux mangas historiques. Donc les mangas que nous avons ici, qui sont nombreux maintenant, sont les mangas traduits, sont très souvent donc des mangas d'aventure, mais il existe toutes sortes de mangas, hein, donc des mangas également, pédagogiques, des mangas qui représentent la vie célèbre de certains personnages, aussi bien Lady Diana qu'un célèbre peintre ou Napoléon. Napoléon donc existe sous forme de manga également. Et ici, il s'agit de Daiko Kuyako Dayu, donc un marin japonais qui a fait naufrage, a traversé les îles Aléoutiennes et toute la Russie, qui est parvenu grâce à l'aide de Russes très célèbres de l'époque, il est parvenu à rencontrer Catherine II et à retourner donc dans l'archipel qui était malheureusement encore fermé à cette époque aux étrangers et aux Japonais qui étaient sortis de l'archipel. Et le pauvre Kodayu, après 9 ans de pérégrination à travers la Russie, a regagné son pays, mais je dirais a pu donc lors de son séjour en Russie prendre de nombreuses notes qu'il a données aux autorités japonaises en espérant justement leur faire part de toutes les connaissances qu'il avait pu acquérir en Occident. Mais malheureusement pour lui, il dut habiter dans un endroit très précis et il n'eut même pas l'occasion de rencontrer ses proches, ses amis, etc. Donc vous voyez, ce fut une époque extrêmement difficile. Et dans ce manga, regardez, vous retrouvez l'expression de la pluie, de la vitesse, également comme de la même façon que vous avez pu le voir donc, dans les estampes de Hokusai. Là, il s'agit d'un autre manga et vous retrouvez de nouveau l'expression de la vitesse. Ici, l'expression du tourbillon que l'on retrouve très fréquemment dans les mangas contemporains. Ou bien l'expression de l'explosion, qui elle aussi est très fréquente dans de nombreux mangas contemporains. Donc là, de nouveau, l'expression du mouvement. Toutes ces photos sont prises, je dirais, à 90% du catalogue de l'exposition, donc vous allez pouvoir les retrouver ensuite. Ligne de vitesse, ligne courbe, de nouveau l'explosion ou bien l'image, je dirais, de la lumière, de l'explosion, de la lumière également. Image que vous retrouvez donc dans l'animation, par exemple ici, donc dans cette image de Pretty Cure, qui est un dessin animé japonais qui connaît un grand succès actuellement. C'est un petit peu pour ceux, je dirais, de la génération des 25-30 ans, un petit peu l'équivalent de Sailor Moon, si certains d'entre vous connaissent, avec beaucoup de magie, beaucoup d'action. Maintenant, je vais vous parler donc des mangakas. Les mangakas, donc, ce sont ceux qui écrivent des mangas, hein, donc des dessinateurs de mangas, de deux mangakas en particulier qui ont consacré une œuvre entièrement à Hokusai. Donc celle-ci est d'un mangaka qui fut très célèbre, qui est décédé malheureusement, qui s'appelle Ishinomori Shotaro. Son nom est un peu compliqué, Ishinomori. Et il a consacré donc tout un livre sur donc à la vie de Hokusai. Donc il s'agit vraiment d'une biographie. Et donc ceci c'est la couverture. Hein. Je l'ai prise exprès pour que vous voyez la façon dont il l'avait représenté. Vous voyez à droite de nouveau la grande vague et Hokusai avec un immense pinceau à la main. Pourquoi ? Parce que Hokusai a voulu prouver tout au long de sa vie, non seulement qu'il s'intéressait à toutes sortes de choses, mais qu'il était capable de peindre toutes sortes de choses, et je dirais dans tous les formats. Donc à deux reprises, il a peint donc des daruma, donc ils sont absolument gigantesques. Donc vous voyez ici le peintre et son pinceau gigantesque. Et lorsqu'il s'était mis à peindre, l'épisode est célèbre, personne ne comprenait ce qu'il allait dessiner. Et à la fin, donc, en prenant, je dirais, un peu de hauteur, tous les gens se sont rendus compte qu'il s'agissait véritablement d'une œuvre d'art, bien sûr qui n'a pas duré très longtemps puisqu'il s'agissait d'une œuvre peinte à l'extérieur. Il a représenté de la même façon un cheval gigantesque. Donc vous le voyez ici, assis à côté de son œuvre gigantesque. Mais il a aussi représenté, il a su peindre des œuvres extrêmement petites, comme ce grain de riz sur lequel il a peint 2 moineaux. De nouveau, voilà le second daruma, qui a une forme un petit peu différente, mais qui est toujours aussi imposant, donc peint avec d'énormes pinceaux. Et puis, vous le voyez ici en visite officielle. Là, voilà un dessin, la représentation d'une estampe de Hokusai, n'est-ce pas, que vous connaissez tous, et puis la grande vague, de nouveau représentée par ce mangaka. C'est un manga qui a été traduit en français, qui est très intéressant pour ceux qui s'intéressent à la vie de l'artiste et qui représente vraiment très bien tous les épisodes importants de la vie de cet artiste, dont le monstre, là, vous voyez, qui essaye de pénétrer donc, par le haut de la moustiquaire. Et puis, la jeune femme aux assiettes. Et de nouveau la vague. Alors vous le voyez ici avec sa fille Oi, qui fut elle aussi un grand peintre, mais qui resta dans l'ombre de son père. Après son divorce, elle décida de rester donc auprès de son père, qu'elle aida beaucoup, donc vers la fin de sa vie. Et comme je vous le disais, elle fut elle-même vraiment une artiste de talent, et vous pourrez admirer l'une de ses œuvres dans l'exposition. Donc de nouveau l'un des monstres que je vous avais présenté. Et voilà donc une œuvre, une peinture de la fille de Hokusai, Oi, qui, comme je vous le disais, fut très brillante, mais qui malheureusement, je pense, est méconnue. Elle mériterait vraiment d'être plus largement connue, mais il reste assez peu d'œuvres d'elle aujourd'hui, et pour les admirer, elles sont rarement exposées, donc il faut en général se rendre au Japon. Une autre mangaka, une femme cette fois, a donc consacré un ouvrage en deux volumes sur la vie de Hokusai et en particulier de sa fille. Il s'agit de la regrettée Sugiura Hinako. Donc j'ai obtenu de ses descendants l'autorisation de vous montrer les quelques images qui suivent. Et au printemps prochain, au Japon, devrait sortir un magnifique dessin animé consacré, donc tiré donc, de ce manga et qui se devrait, je pense, ensuite être diffusé en France, je l'espère, à l'automne ou au printemps de l'année suivante. J'ai pu en voir quelques extraits au Japon. Il s'agit d'un dessin animé qui sera qui est créé par la production très connue qui s'appelle Aiji, que certains d'entre vous doivent très très bien connaître. Ce sera un dessin animé de très très grande qualité. Voilà donc un extrait de ce manga de Sugiura Hinako qui représente donc toute la vie de Oi, la fille de Hokusai, et qui représente donc en particulier la vie, les années qu'elle passa auprès de son père. Donc vous voyez qu'à droite, le dessin est vraiment un dessin de manga. À gauche, il s'agit d'une tête de chapitre. Elle s'efforce de reprendre les estampes dans un style assez artistique. Donc vous retrouvez à gauche l'estampe que je vous avais présentée tout à l'heure de Hokusai, les deux très belles jeunes femmes avec la longue vue, qu'elle a reprise pour une tête de chapitre. Et elle reprend à son tour donc les deux Daruma et le cheval gigantesque peint par Hokusai. Elle reprend également cet épisode de grain de riz qui est resté fort célèbre. Et également l'épisode des monstres, puisque vous voyez en haut à droite, donc l'ogresse, n'est-ce pas, avec son bébé, la tête du bébé dans la main. Donc les mangas, beaucoup sont traduits maintenant en France, mais bien sûr pas la totalité, sont extrêmement nombreux. Les publications se succèdent. Lorsque le succès n'est pas au rendez-vous, eh bien la série s'arrête. Par contre, lorsque le succès est là, les séries peuvent durer, bien sûr, plusieurs années. Ces mangas sont maintenant traduits très, très rapidement en français. Et je sais que parmi vous, il doit y avoir sans doute beaucoup d'amateurs donc de ce genre de livres, n'est-ce pas? Et comme je vous le disais, vraiment, les mangas ont parfois, en Europe, encore une image, je dirais, négative, ce qui est vraiment dommage. Parce qu'il en existe de toutes sortes. Donc il suffit de bien les choisir, mais je pense qu'ils peuvent permettre aux enfants, aux adolescents et même aux adultes d'apprendre beaucoup de choses. Donc c'est vraiment, je pense, les livres sont importants, les romans sont importants, mais si vos enfants souhaitent lire des mangas, je pense qu'il faut les encourager, parce que parmi ceux-ci, comme je vous le disais, il existe aussi vraiment des mangas de très très grande qualité. Donc celui-ci, c'est un manga qui est vendu actuellement au Japon. Je l'ai acheté juste avant mon départ pour en prendre la photo pour vous le montrer. Donc il s'agit d'un manga consacré au surnaturel et aux monstres. Et vous pouvez constater que dès la première page, vous retrouvez les rouleaux enluminés. Ce qui vous prouve que les mangakas contemporains non seulement s'inspirent aussi des rouleaux et maquis, mais s'inspire également toujours des estampes japonaises. Alors, je ne dis pas que les mangas actuels sont entièrement dérivés de l'art japonais. Non, bien sûr, après la guerre, les mangas se sont largement inspirés des comics américains et également de d'autres formes de bandes dessinées européennes, etc., surtout de nos jours, en particulier avec certains mangaka qui sont très proches de la BD, je dirais, de la BD française, belge, etc. Mais l'influence donc de l'art japonais traditionnel persiste de nos jours également. Donc je vous ai montré tout à l'heure cette danse du moineau, et comme les fêtes approchent et que je tiens à ce que vous puissiez la danser à Noël, je vais vous la présenter en vous demandant de surtout de bien regarder afin de pouvoir la danser à votre tour pendant les fêtes de fin d'année. Donc le document que je vous présente m'a été prêté tout à fait exceptionnellement pour cette conférence par la société Toppan, qui est une très très grande imprimerie japonaise. Et le document que je vous présente a été fait d'après l'un des exemplaires de la manga de Monsieur Uragami. Donc Monsieur Uragami est le collectionneur numéro 1 au monde de la manga de Hokusai. Il possède un très beau musée d'estampes, le musée Uragami, qui se trouve au Japon. Et également, il est le premier collectionneur de la manga de Hokusai au Japon. Je l'ai rencontré juste avant mon départ. On m'avait dit qu'il en possédait. Il m'avait dit qu'il en possédait plus de 1500 exemplaires. Et là, il m'a dit oh, non, ma collection s'est encore largement améliorée ces derniers temps. J'en ai acheté de nouveaux exemplaires. Donc là, je suppose qu'il doit approcher des 1550-1600 exemplaires complets, bien sûr, de la manga de Hokusai. Je voulais vous montrer le document. Donc voilà, vous allez voir ce petit document qui vous présente la manga. Voilà, donc j'espère que cette petite animation aura pu vous distraire un certain temps, un bref instant. Et conférence se termine maintenant. Je termine cette conférence en vous souhaitant à tous une très très bonne soirée. Je vous remercie très sincèrement de votre attention.
Merci beaucoup.